Chapitre 43. La lumière qui filtrait des barreaux de la cellule blessait les yeux de Bannon. Rien de bien terrible pour quelqu'un qui avait mal partout. Absolument partout. Avec un grognement, le jeune escrimeur tourna la tête vers le mur le plus proche. Dessus, il crut distinguer des entailles comme si quelqu'un l'avait gratté avec des doigts pleins de sang. Deux bougies brûlant sur leur support mural, le plafond portait des traces de suie. Dans le couloir, des torches projetaient des ombres dansantes à travers les barreaux de la porte. Dans un coin, Bannon remarqua une paillasse. Pourtant, il était recroquevillé sur le sol, là où on l'avait jeté comme un pantin désarticulé. Après avoir provoqué les Norukai, se souvint-il, il les avait affrontés pour recevoir la correction de sa vie. À certains moments, quand la rage le submergeait, il devenait plus dévastateur qu'un cyclone, mais son attaque contre Kor, Yorick et Lars aurait mérité le premier prix de stupidité et de mauvaise improvisation. Hélas, il n'avait pas pu se retenir. Solide au point, il aurait éventré les trois esclavagistes, mais à main nue, il n'avait pas fait le poids. Habitué à s'en prendre aux plus faibles qu'eux, les Norukai, faisant fi de l'honneur, s'étaient acharnés sur lui à 3-1, et il avait bien entendu été battu à plate couture. Une cuisante défaite. Non sans gémir, le jeune homme réussit à se redresser un peu. Un instant, il crut qu'on l'avait mis en prison, quelque part en ville, mais les voix féminines qu'il entendit sur fond de cliquetis métalliques lui apprirent qu'il n'en était rien. Sous l'œil attentif des Morassites, des gladiateurs s'entraînaient en criant de temps en temps. Dès qu'il eut réussi à se mettre à genoux, Bannon prit une grande inspiration, s'accrocha au barreau et se releva. Dans cette position, il put voir clairement les fosses d'entraînement. Délicatement, il palpa ses côtes fêlées et grimaça quand la douleur se répercuta dans tous ses os. Entre ses dents, il maudit Kor et ses deux sbires, puis se tança lui-même d'avoir perdu contre eux. Il aurait voulu voir la tête de ses chiens rouler dans la poussière, puis leur corps s'écrouler comme celui d'un pauvre Yaxen livré à la fureur d'un boucher. Mais pour ça, il aurait fallu qu'il ait solide. Dans les fosses, les gladiateurs combattaient torse nu, la lumière des torches se reflétant sur leur peau huilée. Deux Morassites, sinistres, leur lançaient des critiques acerbes. Au bout du couloir, dans la rangée de cellules d'en face, Bannon aperçut la porte d'une geôle de luxe qu'il avait déjà vue. C'est celle de Yann. Douce mère la mère. Serrant plus fort les barreaux, Bannon inspira à fond et constata que sa poitrine lui faisait un mal de chien.
« Yann, tu es là »
appela-t-il quand même d'une voix coassante. Deux silhouettes bougèrent dans le fief de son ami.
La cellule du champion.
De là où il était, Bannon ne pouvait distinguer les détails. Il attendit et eut enfin quelqu'un dans son champ de vision. Adessa, la chef des Morassites, chargée de l'entraînement des gladiateurs. Torse nu, elle arborait de petits seins qui semblaient très durs, comme si les muscles chez elle avaient pris le dessus sur les courbes féminines. Fièrement dressés, ses tétons ressemblaient à des armes. Sans se soucier qu'on la regarde, Adessa remit lentement la bande de cuir qui voilait sa poitrine. Le torse couvert de cicatrices et le regard d'acier, Yann apparut près de sa compagne. Lustré de sueur, il donnait l'impression de sortir d'un combat.
« Yann, Yann, je suis ici !»
Le champion tourna la tête et son regard froid glissa sur Bannon comme s'il n'était pas là. Alors que Yann disparaissait de la vue du jeune escrimeur, Adessa poussa la porte de la cellule et sortit. « Une porte même pas verrouillée », constata Bannon, abasourdi. Apparemment, son ami et les autres gladiateurs étaient des prisonniers volontaires, fascinés par le cycle entraînement, récompense, punition. C'était cohérent avec la réaction de Yann quand il s'était brièvement parlé. Ces combattants étaient-ils endoctrinés ou n'avaient-ils plus leur esprit à force de recevoir des coups sur la tête? Avaient-ils oublié la liberté? Dans les fosses, les gladiateurs continuaient à se battre en silence. Quand ils criaient, c'était de rage, jamais de douleur, même après avoir reçu les pires coups. Avec la grâce d'une lionne prête à attaquer, Adessa sortit de la cellule du champion, traversa le couloir et vint se camper devant la geôle bien plus modeste de Bannon. Le jeune escrimeur tenta de ne pas broncher, mais soutenir le regard de la Morassite lui flanqua des jambes en coton. Quand il eut un peu reculé, Adessa ouvrit la porte avec sa clé et la poussa.
« Tu es conscient et toujours vivant pour l'instant. Dis-moi, Banane Farmer, vaux-tu la peine que je te consacre du temps ?»«
Cette femme, » pensa Banane, « était une sauvage exactement comme son défunt père. Même si son cœur battait la chamade, voilà beau temps qu'il n'avait plus peur des brutes. Au bout du compte, il s'était dressé face à son père, mais s'il l'avait fait plus tôt, sa vie et celle de sa mère auraient pu être très différentes.
« Je suis un invité ici. Nathan et Nietzsche, mes amis, viendront me libérer. » Tes amis sont des faibles et n'ont aucune influence à Ildakar. »
Banane se souvint des victoires de Nietzsche sur le buveur de vie et cette folle de Victoria. Il revit Nathan taillé en pièces des Selka ou des hommes poussières du désert.
Mes amis ne sont pas faibles et ils ont un grand pouvoir. Pas celui qui compte, mon gars. Alors c'est Amos qui viendra à mon secours.
Autant faire semblant d'y croire au point où en était Banane.
C'est le fils de Thora et Maxime. « Et qui t'a envoyé ici, selon toi ?»
demanda Adessa avec un sourire carnassier. Accablé, Banane se laissa tomber sur la paillasse. Adessa ne mentait pas. Ça tombait sous le sens. Conclusion, personne ne l'aiderait. Finissant par remarquer son absence, Nietzsche et Nathan se lanceraient à sa recherche s'il vivait assez longtemps pour ça.
« Je voulais simplement libérer Yann. Il est déjà libre, espèce de crétin !» Yann fait ce qu'il aime et il mourra dans l'arène. En attendant, il est mon amant. Quel homme peut être plus libre que ça?
Sur la peau d'Adessa, il n'y avait pas un pouce carré de libre. Un vieux grimoire ambulant, couvert de runes défensives acquises au prix de la douleur. Plus que la puissance brute de cette femme, c'était sa fureur rentrée et sa férocité aux connotations sexuelles qui intimidaient Banane.
Comment es-tu devenu ainsi?
Demanda-t-il.
Je suis une Morassite, le fruit d'une formation parfaite et d'un entraînement sans égal. Parmi mes semblables, je suis la meilleure et je prends très à cœur mon devoir. J'ignore ce que sont les Morassites. Ton pire cauchemar, mon gars, voilà ce que nous sommes.
Adessa avança et Banane sentit l'odeur âcre de sa sueur.
Des milliers d'années durant, longtemps avant l'arrivée des soldats d'Outros, puis la création du linceul, nous étions déjà des guerrières redoutées, des instructrices recherchées. Pour monter dans la hiérarchie sociale, des marchands, des négociants et des artisans dépourvus du don nous offrent leurs filles afin qu'elles intègrent nos rangs. Seules les meilleures sont choisies et 1 sur 10 survit assez longtemps pour recevoir les runes protectrices.
Du bout d'un index, Adessa suivit le tracé des entrelacs de glyphes qui tissaient une toile de magie sur sa peau et dans son âme.
« Pendant le protocole, la peau est marquée au fer sur chaque pouce carré. Tu imagines? Et là, un seul gémissement, et c'est la mort. Chaque petit morceau de peau vierge est une honte pour nous, et nous le cachons soigneusement. Sois honoré que nous ayons de l'intérêt pour toi. Entraîné par nos soins, tu pourras te battre et mourir. » J'en suis déjà capable sans vous. Oui, mais privé de nos conseils, tu mourras encore plus vite. Cela dit, cette formation a un prix. Tu penses le valoir? Comme tu m'as l'air du genre réfractaire, je devrais sans tarder commencer à te mater.
Adessa tira de sa ceinture un petit objet cylindrique noir qui ressemblait au manche d'un poinçon. À cause de sa couleur sur du cuir également noir, Banane ne l'avait pas remarqué jusque-là. Quand la Morassite passa un index le long de l'artefact, un clic retentit et une aiguille d'argent jaillit, pas plus longue que la première phalange d'un index du jeune escrimeur.
Toutes les Morassites disposent de cette arme. Pointe douleur, voilà comment nous l'appelons.
Banane se demanda ce qu'Adessa avait l'intention de faire avec une aiguille si courte.
Du poison?
Avança-t-il.
Non. C'est bien pire que ça. De la douleur à l'état pur.
Adessa enfonça la pointe dans la cuisse de Banane, puis du pouce, elle toucha une étrange rune gravée sur le manche noir. Comme si la foudre l'avait touchée, Banane eut le sentiment que son corps explosait. Oubliant les désagréments causés par ses multiples contusions et ses côtes fêlées, il hurla à la mort et se débattit comme un fou. Dès qu'il eut délogé de sa chair la pointe douleur, son calvaire s'acheva, le laissant néanmoins tout tremblant.
C'était ta première leçon,
annonça Adessa, l'air sévère. Toujours tremblant, Bannon se mit à quatre pattes et vomit tripes et boyaux. Après s'être essuyé la bouche d'un revers de la main, il leva les yeux sur la moracite.
C'était quoi?
De la douleur, je te l'ai dit. La rune gravée sur le manche est connectée à un symbole marqué au fer sur notre peau. Tu saisis le mécanisme? Le lien n'est pas difficile à établir et tu as vu ce que ça donne. D'autres connexions permettent de tuer notre cible. Un simple contact et c'est la fin, plus ou moins rapide selon notre humeur.
Encore sonné, Bannon eut le sentiment que les idées s'en mêlaient dans son esprit. Adessa continua à le regarder avec mépris.
« Maintenant debout. Dans un coin, il y a un seau pour te nettoyer le visage. »
Adessa jeta un coup d'œil dans le couloir où attendait une autre moracite.
« J'ai déjà pris le champion sous mon aile comme un gentil chiot, donc je vais te confier à Lila. N'aie crainte, elle saura que faire. »
Adessa sortit sans un regard pour Bannon. Avide de s'enfuir, celui-ci envisagea de bondir sur Lila, de la renverser et de filer dans le tunnel. Mais c'était un plan idiot.
« Parce que tu es un avorton, » dit Lila, les bras croisés. « Je te laisse une heure pour récupérer. »
Elle eut un rictus qui se voulait peut-être un sourire.
« Pendant ce délai, je réfléchirai à la deuxième leçon que tu mérites. »